demain. Vous retrouverez, pardon, j'en perds ma voix. Et oui, ça fait beaucoup d'antennes pour une même semaine. Vous retrouverez Roland lundi soir dès 22h30. Merci à Florian, à Julia, à Laurent. Et puis, merci à vous, chers auditeurs. Passez évidemment un beau week-end sur notre antenne, si vous le pouvez. N'oubliez pas, prenez soin de vous, des autres et du monde. Et retrouvez tout de suite la douce Marlène Duret.
Merci Valérie, je vous souhaite une très bonne nuit et je vous embrasse. Et bonne nuit à vous tous qui nous écoutez sur Europe 1, il est 1h. On débute notre balade nocturne avec une immersion dans le parcours de Daniel Philippaki, l'animateur emblématique qui a participé non seulement à l'essor d'Europe 1, mais aussi à celui de star de la chanson, grâce à son esprit visionnaire. Julien Pichenet vous raconte son histoire.
Destins extraordinaires, Daniel Philippaki, celui qui a tout inventé. Épisode 1.
C'est ce qu'on appelle une sacrée famille. Son père, Henri, a révolutionné l'édition en inventant le livre de poche. Sa mère, Edith, a révolutionné de son côté les vacances en inventant le concept de village et celui des formules tout compris. Lui, Daniel, a démocratisé les musiques venues des États-Unis, a révolutionné la radio en faisant souffler sur les ondes françaises un ton nouveau, jeune et décontracté, et a modernisé la presse magazine. Rien que ça. Arrivé sur Europe 1 en mars 1955, alors que la station n'a que 2 mois d'existence, Daniel Philippaki ravit d'abord ceux qui aiment le jazz, chaque soir à 22h10, avant de devenir la voix des yéyés pour des millions de copains qu'il salue tous les jours à 17h. Une voix, mais aussi un cerveau, une âme, celle de la grande presse française et internationale, dont il sera, après Salut les copains, l'une des figures majeures. Car Daniel Philippaki, le combo est rare, n'a pas été qu'un grand journaliste. Il a aussi été un efficace et redoutable homme d'affaires. Surnommé le Citizen Kane français, respecté et admiré de tous, Daniel Philippaki n'a pourtant jamais mis les pieds sur un plateau de télévision. Son nom était plus connu que son visage. Ses interviews, d'ailleurs, sont en général restées rares, sauf sur Europe 1, où il consentait à l'occasion d'un anniversaire ou à l'occasion de la sortie d'un livre à nous donner quelques nouvelles. Des nouvelles d'une légende des médias et de l'édition qui, selon son ami Jean-Marie Perrier, qui fut son assistant dès 1956 à l'âge de 16 ans, avait ni plus ni moins inventé l'adolescence en France.
Il a eu l'intelligence d'aller en Amérique avant tout le monde et de comprendre que le présent des États-Unis des années 50 était le futur de la France des années 60. Il a vu que là-bas, avec Elvis Presley et James Dean, on avait inventé l'adolescence. À savoir qu'avant, dans les années 40-50, il n'y a pas, ça n'existe pas. On est enfant et boum, on se retrouve marié du jour au lendemain. Et là, tout à coup, il y a des gens qui ont le même âge et qui nous parlent à nous quand on est adolescent. Et puis tout à coup, boum, arrivent des gens qui représentent, bon, soyons clairs, représentent un marché aussi. Hein. Et tout à coup, ils ont une identité, on leur donne la parole. Et il y a des musiques qui sont faites que pour eux, et des habits qui sont faits que pour eux. Et ça y est, tout à coup, ça devient d'ailleurs, bon, même excessif, puisque finalement, le jeunisme qu'on a inventé sans le savoir, bah, il dure encore aujourd'hui.
Grâce à Europe 1, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie. Beaucoup de choses, ça serait trop long, genre, ça prendrait des heures, si je devais dire tous les bons souvenirs que j'ai.
Né le 12 janvier 1928 à Paris, Daniel Philippaki ne reprendra jamais ses études, interrompues par la guerre, alors qu'il n'avait que 11 ans.
Moi, j'étais dans l'école communale rue de Vaugirard, jusqu'au certificat d'études.
C'est d'ailleurs la seule chose qui est marquée dans le Wouzbou, je crois, à votre sujet. École communale, 9 rue Vaugirard.
Ouais.
N'êtes pas allé plus loin.
Si, j'ai fait ensuite quand même d'autres études, mais enfin, très perturbé par la guerre, tout ça.
C'est sur le terrain, en enchaînant dès l'âge de 12-13 ans des petits boulots, qu'il découvre sa vocation. D'abord apprenti typographe dans une imprimerie, il s'intéresse rapidement à la littérature, aux surréalistes, notamment André Breton, et à la photographie. Il est encore mineur, en 1945, lorsqu'il intègre le staff du magazine Match. Ses moyens et son imagination sont alors sans limite. Il roule en Ferrari, fréquente les grandes ce monde et envoie à sa direction des notes de frais faramineuses.
Je fréquentais beaucoup les hommes d'État quand j'étais photographe. J'étais d'ailleurs un peu spécialiste des rois, des reines et des présidents.
Et du maréchal Pétain. Ouais, c'est lui, d'une certaine façon, grâce à lui, que vous avez été lancé.
Et du maréchal Pétain, absolument. J'étais très copain avec sa femme.
Ouais, vous avez fait un scoop professionnel.
Oui, c'est vrai.
Au tout début des années 50, Daniel Philippaki est désigné préposé du maréchal Pétain. qui se meurt dans cette maison de l'Île-Dieu où il est assigné à résidence. Pendant des mois, il fait le siège de la forteresse où agonise Pétain. Pendant des mois, il attend le dernier soupir de l'ancien chef d'État.
À l'époque, on vous envoyait à l'Île-Dieu, où était incarcéré le maréchal Pétain,
oui.
Dès qu'il avait un pet de travers, c'est-à-dire souvent.
Oui, à chaque fois qu'il avait un peu de fièvre, qu'il était un peu malade, étant donné son âge, on pensait qu'il allait mourir, alors le directeur du journal me demandait d'aller tout de suite là-bas.
Et alors là-bas, vous retrouvez vos confrères, Pierre Salinger pour la presse américaine, non, Maurice Siegel, mais il n'y a pas du tout de moyen de communication, il n'y a pas de téléphone sur l'Île-Dieu.
Non, à cette époque, on ne pouvait pas téléphoner, il y avait la poste, n'en parlons même pas, il fallait absolument aller sur le continent.
Et alors, vous trouvez un truc, c'est d'utiliser des pigeons voyageurs.
Oui. J'étais très handicapé parce que je ne pouvais pas prendre le bateau, j'étais malade comme un chien et je m'étais longtemps à m'en remettre. Alors, il y a eu l'histoire des pigeons voyageurs, évidemment, qui nous a permis de doubler beaucoup de confrères. Parce que moi, j'envoyais mes photos par pigeon voyageur, ça prenait quelques heures.
Et votre pellicule, alors, vous l'accrochiez à la patte du pigeon?
Oui, il avait un petit rouleau à la patte, oui.
Daniel Filipacchi et ses camarades de match sont en quelque sorte les premiers paparazzi. Avril 1951, las d'attendre la mort de Pétain, il cherche la photo qui fera vendre. Voici son idée, faire souffler le gâteau d'anniversaire du maréchal par Nini, son épouse.
C'était une façon de quand même ramener quelque chose pour le journal. Parce qu'on était là à attendre comme des idiots pendant des mois et des mois, parce que ça durait très longtemps. Alors comme c'était son anniversaire, on a eu l'idée de faire un gâteau. Et comme il n'y avait pas de gâteau, on a pris un pain. C'était mon ami Jean Roy qui s'est occupé de tout ça. On a planté je sais pas combien de bougies, 92 bougies, ou 13 ou 14, je sais pas. Et on a fait cette photo avec la maréchale qui était très contente, qui trouvait ça très drôle. Elle trouvait même d'ailleurs ça tellement drôle qu'il a fallu que je lui dise, écoutez, madame, faites quand même, ayez un petit air de circonstance quand même. N'ayez pas l'air de rigoler trop. Alors, elle a pris un air de circonstance.
Daniel Filipacchi et ses amis paparazzi ne reculent devant rien. Pour humidifier le gâteau, qui paraissait beaucoup trop sec à l'image, les azous ne vont pas l'imbiber d'eau ou d'alcool, mais uriner dessus.
Ben c'est Jean Roy, oui. Oh, c'était comme ça. Il était provocateur un peu, lui aussi. C'était soi-disant pour le ramollir. Parce que c'était rassis, c'était un morceau de pain rassis.
Mais plus encore que le photojournalisme, la grande passion de Daniel Filipacchi, c'est la musique. Le jazz en particulier. En plus de match, il a d'autres activités liées à cette véritable passion. Une autre raison de beaucoup voyager, aux États-Unis notamment.
J'étais photographe, je m'occupais d'une maison de disques, enfin je travaillais dans une maison de disques, j'avais plusieurs activités. Quand j'étais aux États-Unis, j'écoutais beaucoup la radio.
En vous disant, c'est quand même extraordinaire là-bas, ils ne disent rien, ils passent beaucoup de musique, et quand je reviens en France, c'est l'inverse.
C'est ça. Et puis surtout, le genre de musique. Parce que sur la radio française, on ne passait qu'un certain style de musique, quoi.
Oui, il y avait beaucoup de sirop, oui, beaucoup de... Enfin, il y avait aussi quand même Beco et Aznavour et Brassens, qui étaient des grandes vedettes.
Alors que le jazz est encore un genre marginal en France, Daniel Filipacchi se fait un nom dans ce petit monde. Réputé pour son immense collection de disques, il organise également des concerts. 12 mars 1955, le saxophoniste Charlie Parker, épuisé par ses excès d'alcool et de drogue, s'éteint à seulement 34 ans. À l'antenne de la toute jeune radio Europe numéro 1, les animateurs aimeraient bien commenter ce décès, mais il n'y a aucun spécialiste de jazz dans l'équipe. Ils aimeraient bien aussi passer un disque de Charlie Parker, mais il n'y en a aucun dans la discothèque.
C'était mon ami Maurice Siegel, qui était donc le rédacteur en chef du journal à cette époque, d'Europe 1, que je connaissais bien puisque je le rencontrais toujours à l'Île-Dieu. On habitait même ensemble, j'avais loué une maison. Alors il m'appelle en me disant « Charlie Parker est mort, est-ce que tu peux venir en vitesse avec des disques ?» Et j'ai amené des disques, effectivement, parce que moi, j'avais tous les disques de Charlie Parker, hein, tous.
Et là, vous passez directement à l'antenne.
J'ai fait un choix et je suis allé directement les présenter moi-même.
Bien qu'il n'ait jamais fait de radio, Daniel Filipacchi apparaît très détendu et naturel au micro. Il est totalement en phase avec ce ton moderne que la direction cherche à imposer à l'antenne. Et visiblement, ça plaît aux auditeurs. Ils sont très nombreux à envoyer un courrier rue François 1er pour demander d'autres disques de jazz.
Alors évidemment, ça a tout de suite créé une espèce d'intérêt pour la direction d'Europe 1 qui s'est dit, dans le fond, profitons de ça. C'était les débuts de la station, vous voyez, c'était tout au début.
Et voici que fin mars 1955, quelques jours seulement après la mort de Charlie Parker, la direction d'Europe numéro 1 rajoute à sa grille une émission. Pour ceux qui aiment le jazz. Une émission quotidienne, diffusée chaque soir de 22h10 à 22h50. Le choix est plutôt osé et risqué, tant il tranche avec les programmes musicaux et même avec les programmes tout court, proposés alors par la radio française.
Justement, c'était différent à l'époque. À l'époque, la radio était un peu pénible.
Ouais.
Je veux dire, Radio Luxembourg, Paris Inter, il y avait beaucoup de blabla. Ça, c'était la première émission où vraiment il y avait très très peu de paroles.
Les puristes des ondes sont d'autant plus bouleversés que Daniel Filipacchi, à qui l'on confie logiquement l'animation de cette nouvelle émission, est associé à un autre jeune spécialiste de jazz, avec qui il a organisé des tournées européennes pour Louis Armstrong ou Duke Ellington, Frank Teno. Un duo à la présentation, qui improvise et bavarde librement entre deux disques, ça aussi, c'est nouveau. Et en plus, devinez quoi, il se tutoie à l'antenne, les premiers tutoiements, peut-être, de l'histoire de la radio.
Bonsoir Daniel, comment vas-tu?
Ah, ça va très très bien. Je vois un disque là.
Attends, ne le prends pas.
Pourquoi je ne prendrai pas?
Mais parce qu'on va le passer tout de suite.
Mais d'accord, mais alors, laisse-moi regarder la photo.
Mais c'est un disque de Clark Terry.
C'est ce gros monsieur. Ah, c'est Clark Terry.
C'est le trompette Clark Terry.
Beau garçon.
Il dirige sa formation là.
Ah oui.
Il joue en compagnie de Cecil Payne au saxophone, James Cleveland au trombone, Horace Silver au piano, Art Blackie à la batterie et il y a deux bassistes.
En 1955, le rock n'a pas encore envahi l'Europe. Et les jeunes raffolent de Pour ceux qui aiment le jazz, qui devient un must dès son premier numéro. Les anciens, en revanche, n'apprécient pas beaucoup cette nouvelle émission. De plus, des professeurs rendent responsables Filipacchi et Teno de la baisse d'attention en classe des lycéens, qui bien souvent arrivent à l'école très fatigués à force d'écouter Pour ceux qui aiment le jazz tous les soirs. Parmi ces jeunes auditeurs, qui préfèrent alors la radio dodo, un certain Jean Chrysostome Dolto, le futur chanteur comique, Carlos.
Cette station a explosé, c'est-à-dire que c'était plus les mesdames et messieurs, bonsoir, mais chers auditeurs, bonsoir. Non, c'était pas ça, c'était les animateurs, les gars, les proches des gens, une espèce de ton tout nouveau, et puis surtout, pour nous qui étions fous du jazz, pour ceux qui aiment le jazz, avec Frank Treno, Daniel Filipacchi, comme on les appelait à l'époque, et on s'arrêtait, parce qu'il n'y avait pas de radio dans les bagnoles, on s'arrêtait dans les bistrots pour écouter l'émission. C'était extraordinaire.
Fort de ce succès, Daniel Filipacchi rachète Jazz Magazine et pose ainsi la première pierre de son futur groupe de presse, de son futur empire. Pour ceux qui aiment le jazz, continuera jusqu'en 1963. Mais en 1959, le directeur des programmes d'Europe numéro 1, Lucien Maurice, demande à Daniel Filipacchi de reprendre en main une autre émission musicale, Europe Jeunesse.
C'est Lucien Maurice qui a pensé un jour qu'il faudrait remplacer une émission qui s'appelait Europe Jeunesse et qui était une émission où on parlait beaucoup et où il n'y avait pratiquement pas de musique, par le contraire. C'est-à-dire une émission où il n'y aurait pratiquement pas de paroles et ouais, que de la musique. D'ailleurs, on cherchait un titre, moi je voulais qu'elle s'appelle Jukebox quelque chose, Radio Jukebox, un truc comme ça. Et puis, finalement, c'est le titre Salut les copains qui a été choisi.
Comme ça,
on a toujours évité d'employer le mot copain et le mot jeune, jamais.
La formule « Salut les copains », parce qu'à l'époque, quand on ouvrait la porte d'une pièce, on disait « Salut les copains », c'était dans le vocabulaire.
Un petit peu, oui, grâce à la chanson de Beko. Oh.
Salut les copains, voyez j'ai mauvaise mine, les rues de Pantin manquent de mandoline. Je pars en voyage avec pour bagage, dans ma petite musette, 5 à 6 chaussettes, 2 ou 3 chemises, ma plus belle mise, moi je pars pour l'Italie. Salut les copains.
Au départ, Europe Jeunesse, qui changera rapidement de nom pour Salut les copains, est une émission hebdomadaire animée par une certaine Suzy.
Salut les copains était une émission qui existait sur Europe à l'époque.
Le jeudi après-midi, elle était présentée par une petite américaine très sympathique qui s'appelait Suzy. Comme l'émission avait beaucoup de succès et que la petite devait retourner aux États-Unis où elle était étudiante, Lucien Maurice m'a appelé et m'a demandé si ça m'intéresserait éventuellement de continuer l'émission un petit peu avec Suzy et puis tout seul. Et puis ça se passait finalement assez bien. Et quand elle est partie, je suis resté tout seul. Le courrier arrivait abondamment, donc on voyait qu'il y avait quelque chose.
En choisissant Daniel Filipacchi, Lucien Maurice a eu le nez fin. Avec lui, Salut les copains passe d'une heure à une heure et demie et devient une quotidienne.
La première émission de Salut les copains, 17h sur Europe 1, quelle date?
Ah ça j'en sais rien, mais c'est loin. Et puis en plus ça n'a pas commencé comme ça. J'ai dit ça a commencé une demi-heure par semaine, ensuite ça a été deux jours par semaine, ensuite trois jours, ensuite quatre jours, puis c'est passé à une heure, et puis c'est revenu à trois quarts d'heure, et puis ensuite oui. Deux heures.
C'était une émission un peu nomade.
Oui, c'était une émission...
Salut les nomades.
C'est ça. Qui, en fait, comme à l'époque, il n'y avait pas de sondage, il n'y avait rien de très technique sur le plan, tu vois, pour définir l'auditoire, c'était basé essentiellement sur le courrier.
D'un côté, pour les jeunes artistes français, l'existence d'une émission comme Salut les copains peut servir de formidable tremplin. Et de l'autre côté, pour Salut les copains, voir émerger de nouveaux artistes français est aussi une aubaine. Chacun y trouve son compte. Europe numéro 1, comme ce fougueux gamin de 18 ans, Johnny Hallyday.
Je me souviens de soirs de danse, jour contre jour, des rendez-vous de nos vacances, quand nous faisions les fous. Souvenirs, souvenirs, de nos beaux jours de l'été.
Tous vos slogans en préféré.
Grâce à Salut les copains, sont arrivés dans les transistors qui? Johnny Hallyday?
Bien oui, Johnny a été finalement le premier à faire vraiment de l'adaptation de rock américain. Oui, il a été le premier avec Richard Anthony, Eddie Mitchell. Tout ça est arrivé à peu près à la même époque. Oui. Enfin, quand même, je crois que Johnny, c'était le premier. T'aimais follement. Un jour, Lucien Maurice est arrivé. Je me souviens avec ce disque. En disant d'ailleurs que c'était Tignol, il l'a cassé à l'antenne.
Cassé?
Oui. Il avait une émission qui s'appelait le Disco Ball.
Oui. Il cassait les disques.
Non. Mais celui-là, il l'a cassé. Il était foudrage.
Oui.
Et puis il a vite changé d'avis, d'ailleurs.
Tout autour de nous, les gens sont jaloux. Ils me reprochent surtout d'avoir pour toi des yeux trop doux. De t'aimer et follement, mon amour. De t'aimer et follement, le déjeuner. Ça n'est pas gentil.
L'une de nos fiertés, dira Daniel Filipacchi, c'est non pas d'avoir lancé des vedettes, mais simplement d'avoir donné à des chanteurs débutants l'occasion de se faire entendre. Occasion qui leur était refusée presque partout, puisque les premiers disques de Johnny Hallyday ou de Richard Anthony furent accueillis avec un sourire méprisant par la plupart de ceux qui auraient dû les aider à entrer en contact avec le public.
Il n'y avait que vous à décider de qui passait comme chanteur dans Salut les copains.
Ah oui, on faisait nos programmes, oui.
Vous écoutiez les disques qui paraissaient en disant alors par exemple, bon, Hallyday formidable, Anthony formidable, qui d'autre encore?
Oh mais il en paraissait une telle quantité,
ouais.
Et beaucoup d'ailleurs n'ont pas marché, bien sûr, comme toujours, ouais. 9 sur 10. Alors on décidait donc que tel ou tel titre devait passer,
ouais.
Et puis on le passait à tour de bras.
Il y avait aussi un chouchou.
Il y avait un chouchou, oui.
Donc un disque, lui, il ouvrait l'émission et il terminait l'émission.
Oui, et quelquefois même, à une époque, on le passait quatre fois.
Et on pourrait peut-être passer à notre chouchou, là, Lucky Blondo. Hein?
Oui.
Je crois qu'il est temps. Je vous ai annoncé tout à l'heure que nous avions deux chouchous cette semaine. Vous avez déjà entendu Buddy Greco dans Twisting to the Blues. Et voilà notre chouchou français, Lucky Blondo. Multiplication.
Moi, je t'ai pire. Toi tu me fuis, et pourtant nous, nous aimons. Quand tout va si mal, ce n'est pas normal, je viens d'en trouver la raison.
Daniel Filipacchi est une star pour les jeunes, mais sa présentation est plutôt discrète. L'animateur aux lunettes fumées à la voix douce joue sur la convivialité et la proximité.
Bah, j'avais assez confiance, oui, je pensais que ça pouvait marcher, oui, je pensais que ça pouvait plaire.
Parce que je voyais que c'était quand même, aux États-Unis, c'était ce genre d'émission qui marchait, et je pensais que ça devait être la même chose en France.
Alors que Salut les copains se fait le porte-voix officiel de cette nouvelle vague de la chanson française, les fans peuvent directement dialoguer avec ces nouvelles idoles. Johnny Hallyday, Richard Anthony, Claude François, France Gall ou encore Sylvie Vartan.
Questionnez vos vedettes préférées. Envoyez une carte postale à Daniel Boîte Postale 150 Paris 8e avec votre nom et votre adresse et votre numéro de téléphone et la question que vous désirez poser à la vedette de votre choix.
Allô ?
C'est Dominique ?
Oui.
Bonjour, c'est Sylvie.
Bonjour Sylvie.
Ça va ?
Oh oui, très bien. Toi aussi ?
Oui, oui, très bien.
Bon, j'avais une petite question à te poser.
Oui, oui, j'écoute.
Je veux savoir si tu as des recettes spéciales pour quand tu prépares le biberon de David.
Des recettes spéciales ?
Oui.
Bah pour l'instant, tu sais, je peux pas lui varier ses menus parce qu'il ne boit que du lait en poudre.
Oui.
Alors, ça ne se borne qu'à ça, du lait en poudre. C'est un peu triste. De temps en temps, il boit du jus d'orange et du jus de raisin, voilà.
Je voudrais te demander aussi si tu vas reprendre le musical et la chanson, quoi, un peu la vie que tu avais avant.
Ah bah oui, bien sûr.
Ça t'intéresse, hein?
Bah oui. Je vais recommencer à chanter très bientôt, d'ailleurs, puisque je pars en Turquie.
Oui.
Et puis, je suis en train de répéter avec mon nouvel orchestre et je compte reprendre enfin, mes tournées, etc. Enfin, avec tout ce que ça comporte.
Oui, d'accord, c'est très bien. Bon, et au revoir, Sylvie.
Au revoir, Dominique.
Au revoir. Merci d'avoir appelé.
De rien.
Salut les copains, ou SLC pour les intimes, est même validé par nos voisins anglais. De l'autre côté de la Manche, la bande à Mick Jagger et celle de Paul McCartney écoutent et approuvent.
L'émission était très écoutée en Angleterre.
Ah bon ?
Oui.
Parce qu'on entendait très bien Europe à Londres. Je pense d'ailleurs que ça doit toujours être vrai.
Oui.
Et on recevait beaucoup de lettres d'Angleterre et je sais pas pourquoi, beaucoup d'artistes anglais comme les Beatles justement ou les Rolling Stones, enfin ils attachaient une certaine importance, je dirais, à cette émission.
Cette semaine, cette chanson est classée numéro 1.
Nous jugions la qualité d'une émission sur le nombre de disques qu'on arrivait à passer.
Ah.
Et on avait des règles d'or. Il fallait jamais descendre en dessous d'un certain quota. Il fallait garder une certaine proportion entre le français et l'américain, parce qu'évidemment, on avait une tendance naturelle à favoriser les chansons d'origine américaine. Ce qui était bien normal, d'ailleurs, parce qu'elles étaient bien meilleures.
C'est-à-dire, ah oui, ça c'est intéressant, qui ? Les Beatles ?
Les
Stones ?
Les Beatles, les Stones... Parce que ça, c'était vraiment d'ailleurs des rouleaux compresseurs, mais c'était même pas nos préférés finalement. On aimait mieux Ray Charles, on aimait mieux Chuck Berry, Bo Diddley ou des gens comme ça.
Europe numéro 1 devient donc la radio officielle des surbooms. Et Daniel Filipacchi est en quelque sorte le premier DJ de France. C'est la première fois dans l'histoire de la radio qu'une émission diffuse ainsi 4, 5 ou 6 chansons d'affilée. Salut les copains, c'est en quelque sorte la bande FM avec 20 ans d'avance.
Il paraît que quand vous lanciez les disques, quand vous les présentiez, vous parliez peu.
C'est vrai, oui. Et même, je disparaissais pendant une demi-heure. Je revenais, on enchaînait 5-6 disques, je revenais. Et puis, même assez souvent, d'ailleurs, je ne venais pas moi-même à l'émission. Personne ne s'en apercevait.
Modeste, Daniel Filipacchi ne s'est jamais attribué le succès de cette émission. Il prétendra même, non sans humour, qu'il ne savait jamais quoi dire à l'antenne. C'est pour ça, dit-il, qu'il avait demandé, une première là encore, de lire lui-même les messages publicitaires, tâche en général réservée aux meneurs ou aux meneuses de jeu.
Hollywood Swingum. Musique,
montée musicale, descendez pour qu'on entende ma voix. Hollywood Chewing Gum, en deux temps, trois mouvements, tout est mâché. En pleine action, Hollywood Chewing Gum, c'est la véritable décontraction. Dans le feu de l'action, un vrai chewing gum. Rien dans les mains, rien dans les poches, tout dans la bouche. Un étui géant en cinq tablettes, dragé. Enfin, ayez-en toujours sur vous de l'Hollywood Chewing Gum.
Vous avez toujours votre carte de presse ?
Eh oui, je pense bien que j'ai ma carte de presse. J'ai failli la perdre à cause d'Europe numéro 1 d'ailleurs. On a voulu me l'enlever parce que j'ai été, je crois, le premier journaliste à lire des messages publicitaires. Comme justement je ne savais pas quoi dire au cours de l'émission, un jour j'ai décidé de lire la publicité moi-même. Pour qu'enfin... Et la commission de la carte journaliste est intervenue pour me l'enlever.
Daniel Filipacchi reste modeste, mais il capitalise sur le succès de son émission. En 1962, il fonde Salut les copains, le magazine. Après le son, voici l'image. Les idoles en photo, les idoles interviewées, les paroles des chansons. En cette époque où la télévision n'est pas encore rentrée dans tous les foyers, loin de là, l'hebdomadaire fait un carton.
Vous savez qu'il est maintenant 6h moins 5. Je voudrais vous rappeler que le dernier numéro de SLC vient de sortir avec un grand reportage avec des photos inédites sur James Dean. Vous avez certainement entendu parler de James Dean, même si vous n'avez pas vu ses films. Il n'en a pas fait tellement, d'ailleurs il n'en a fait que 3. Ils étaient formidables. James Dean est mort il y a maintenant un petit peu plus de 10 ans et il intéresse toujours le monde. On s'intéresse à son cas. Vous verrez dans SLC beaucoup de photographies inédites.
C'est précisément le samedi 22 juin 1963 que Daniel Filipacchi et la direction d'Europe numéro 1 vont véritablement prendre conscience de l'ampleur du phénomène qu'ils ont créé. Pour fêter le premier anniversaire du magazine SLC, l'animateur a alors l'idée d'innover en organisant un concert gratuit en plein air, Place de la Nation. Une initiative alors totalement inédite, avec en vedette, entre autres, Richard Anthony, Les Chats Sauvages, Daniel Gérard, Sylvie Vartan et bien sûr, Johnny Hallyday, la star de la soirée. Depuis quelques jours, Daniel Filipacchi fait lui-même de la publicité pour ce spectacle à l'antenne. Venez tous, samedi soir à 21h, Place de la Nation.
J'ai fait un appel plusieurs fois sur l'antenne. Rendez-vous à la Nation, il y aura Johnny, il y aura Sylvie, il y aura tout le monde. Et bon, effectivement, il est arrivé une foule immense.
Ce qui suit témoigne de la force de frappe d'Europe numéro 1 et de son émission vedette. Alors que les organisateurs s'attendaient à voir débarquer 10 000 jeunes, tout au plus, ce sont 150 000 copains, peut-être même 200 000, qui investissent ce soir-là la Place de la Nation, la d'ordinaire si tranquille Place de la Nation, transformée pour l'occasion en gigantesque dancing.
Tout le monde est venu, Place de la Nation, côté public et côté chanteur aussi, car cette soirée marque également le premier anniversaire de Salut les copains. Alors vous pensez, il y a sur cette Place de la Nation une ambiance formidable. D'abord une affluence absolument fantastique. Des jeunes sont même montés sur les toits, sur le clocher d'une église. Il y en a partout, sur les anciennes petites maisons de l'Octroi, vous savez, dans les arbres. Alors là, il y a de véritables grappes humaines. Et au balcon, bien sûr, n'en parlons pas. Pour l'instant, ce sont les champions qui ont pris possession du podium.
Place de la Nation, c'est du délire total. 3000 policiers sont appelés en renfort pour encadrer ces dizaines de milliers de fans et leurs idoles, les yéyés, comme l'écrira alors le sociologue Edgar Morin dans les pages du journal Le Monde.
J'avais été très frappé par les films sur l'adolescence rebelle. Il faut penser que quelques années auparavant étaient sortis les films de James Dean. Pour la première fois, le cinéma avait des héros de l'adolescence, avec pas mal de ces éléments. Je fais une série d'articles pour dire que c'est un des symptômes de la poussée d'une sorte de classe, entre guillemets, adolescente, qui, se trouvant, veut s'émanciper, elle a des aspirations, elle ne veut pas être soumise comme des enfants, elle veut avoir ses libertés, elle a créé ses propres codes, elle a ses lieux, qui sont les rassemblements de rock, etc. Donc je fais une série de 2 ou 3 articles, dont l'un s'appelle le yéyé.
Pour Richard Anthony, Johnny ou Sylvie, ce fut une soirée mémorable.
C'était hallucinant, oui, c'était avant les grands concerts de l'île de Wight et tout ça, oui. De Woodstock. Oui. On était arrivés avec Johnny dans un car de police, parce qu'on venait de Provence, où on tournait « D'où viens-tu, Johnny ?» Et on avait pris l'avion pour être à l'heure au concert. Et donc, on était arrivés au dernier moment avec les flics qui nous accompagnaient.
Au milieu des années 60, on estime que 2 millions de jeunes écoutent quotidiennement « Salut les copains », émission inégalée dans le genre, mais très souvent copiée. C'est d'ailleurs pour ça qu'après 1965, Daniel Filipacchi cède de plus en plus régulièrement son fauteuil de présentateur à Michel Briez, à Hubert Vaillaf ou encore directement à une vedette comme Claude François.
Écoutez, de toute façon, moi je suis venu passer une heure maintenant. Salut à tout le monde, à Daniel, à tout le monde, à tout le monde. C'était Claude François, au revoir et... à bientôt.
Salut les copains disparaîtra à la fin de la saison 1968-1969. Après mai 68 et l'arrivée du mouvement hippie en France, l'émission passe de mode. La musique a changé. Johnny et les autres ont grandi, les auditeurs aussi. L'émission restera le parfum d'une époque, les années 60.
Qu'est-ce qui vous a arrêté en si bon chemin? C'est quoi? C'est l'arrivée de la télévision? C'est
L'usure, oui, enfin...
Quelle usure?
Ça a duré près de 10 ans, ce truc-là. C'est long.
10 ans?
Oui.
10 ans à l'antenne, 10 ans là, derrière les micros
salut,
d'Europe.
Pour salut, oui.
Et l'usure, c'était quoi? Elle se matérialisait comment? Pas envie de venir présenter l'émission
D'abord, le fait que Salut les copains avait cessé d'être une émission unique en son genre. Tout le monde faisait la même chose, non seulement sur les autres stations, mais sur Europe. Alors elle avait perdu beaucoup de sa particularité. C'était devenu beaucoup plus diffus comme audience.
Ouais.
Tout le monde passait des jingles, tout le monde le faisait après, alors je veux dire, bon...
Mais Daniel Filipacchi est déjà parti vers d'autres projets quand Salut les copains ferme boutique. Il a coupé son micro, mais ne quitte pas le monde des médias, loin de là. Il va même devenir l'une des principales figures du milieu. Le succès du magazine de Salut les copains lui a donné l'idée de se consacrer à la presse magazine. Daniel Filipacchi rachète plusieurs titres, comme les Cahiers du cinéma, et fonde, avec son ami Jean-Luc Lagardère, le groupe Hachette Filipacchi Média. Sous sa direction, ce groupe devient, dans les années 70, le premier éditeur mondial de presse magazine.
Pour mesurer l'étendue de l'empire Filipacchi, il suffit d'aller dans n'importe quel kiosque à journaux. Prenez les magazines à grand tirage, ceux qui plaisent au plus grand nombre. Vous trouverez Paris Match, Télé 7 jours, avec plus de 3 millions d'exemplaires chaque semaine. France Dimanche, Elle... Lui, le journal du dimanche. Filipacchi, c'est bien sûr la presse des jeunes et de la chanson qu'il a lancée. Exemple, Salut les copains, devenu aujourd'hui Salut tout court. Ou encore, OK, Podium, et même le journal de Mickey. Côté cœur et presse érotique, il faut citer Playboy, New Look, Confidence et Union, sans oublier la presse féminine avec F Magazine. Les activités presse de Daniel Filipacchi s'étendent également sur toute une série de revues plus spécialisées. Ça va de la photo au sport, en passant par la musique, comme Jazz Magazine, la cuisine...
Vous n'êtes pas d'accord?
Non, je voulais simplement dire que oui. Confidence, c'est pas tellement érotique.
Non, ça se saurait.
Et comme il l'avait fait sur Europe numéro 1, Daniel Filipacchi impose une vision moderne et internationale. Sous son impulsion, la presse magazine redevient un secteur ultra dynamique.
Il ne faut pas oublier, c'est que... aujourd'hui, bon, je sais pas, il y a 40, 50 publications, mais on en a essayé 30 ou 40 aussi qui n'ont pas marché parce que les idées n'étaient pas bonnes ou parce qu'elles étaient mal faites.
Mais quand ça marche pas, vous arrêtez net là, vous traînez pas.
Sauf si on a le sentiment qu'avec un peu de patience, ça, on peut le mettre sur les rails. Ça, il faut pas non plus abandonner trop vite. C'est cas par cas. Et puis faut pas non plus risquer tout le reste pour s'acharner, ne pas reconnaître un échec.
Vous avez eu un échec parce que ça a l'air d'être tout rose, d'être un patron de
j'ai
presse.
J'ai pas eu un échec. Je vous dis, j'en ai eu 30.
S'il concède quelques échecs, Daniel Filipacchi a aussi et surtout créé des magazines qui deviendront bien plus que des titres, des marques, voire des marqueurs de la société.
Vous avez créé lui, vous avez créé Playboy, ce qui fait qu'un jour à la télévision suisse, un présentateur vous a dit, Daniel Filipacchi, vous êtes l'empereur du cul. Et vous avez répondu?
Et je lui ai dit, comme ça, ça m'est venu à l'esprit, je lui ai dit, j'aime mieux être, qu'est-ce que j'ai dit? J'aime mieux être l'empereur du cul que le roi des cons. D'abord, il y a eu Playboy aux États-Unis, dont j'ai eu l'idée de faire la copie. Comme à l'époque, il n'était pas question de l'appeler Playboy, parce qu'il aurait fallu prendre un arrangement avec les Américains qui ne m'auraient certainement pas donné le titre, on a imaginé le titre de lui et on a fait une copie, mais pour parler plus gentiment, disons une adaptation assez fidèle de Playboy. C'est-à-dire c'était le concept à la française, à l'européenne.
Avec ses publications, Daniel Filipacchi s'attire les foudres de la censure, qui veut purement et simplement interdire Playboy.
Une interdiction qu'il parviendra à lever grâce à son amie Marianne Frey, qui n'est autre que la fille du ministre de l'Intérieur de l'époque.
Vous multipliez comme ça les titres comme un conquérant. C'est pour créer, parce que ça vous fait plaisir, ou pour les posséder ?
Oui, c'est pour créer, parce qu'il faut, à mon avis, créer des choses, garder une certaine vitalité dans les sociétés de presse. Les journalistes ne sont pas des gens faits pour s'encrouter toujours dans le même produit, etc. Donc, il faut faire des produits nouveaux. En plus, les journaux vieillissent comme des personnes, et il faut donc renouveler.
Après les années Europe numéro 1, ses apparitions publiques se font de plus en plus rares. D'ailleurs, il passe de plus en plus de temps aux États-Unis, à New York. Il passe aussi beaucoup de temps sur son bateau, dans les Caraïbes. C'est de là, paraît-il, qu'il préfère diriger son groupe. Autre légende, Daniel Filipacchi ne se rendrait dans les rédactions de ses journaux que le 14 juillet. Et pourquoi donc le jour de la fête nationale ? Eh bien, répond-il, pour être sûr de n'y croiser personne. Passionné d'art et notamment de surréalisme, Daniel Filipacchi s'est constitué au fil des années une collection exceptionnelle. Collection qui fut exposée dans certains des plus grands musées du monde, comme le Musée d'art moderne de la ville de Paris ou le Guggenheim de New York. Daniel Filipacchi fait partie de ceux qui ont tout fait, tout vu, tout connu. Il a connu par exemple Jacques Prévert, Simone Signoret ou Yves Montand. Il a trinqué avec Duke Ellington, Louis Armstrong et Dali, ses artistes préférés. Il a passé des vacances chez Georges Simenon, un imbécile de génie selon lui. Il a échangé avec Jean Genet, avec Robert Desnos. Adolescent, il s'est fait gifler par Antonin Artaud au Café de Flore, après lui avoir renversé volontairement un jus d'orange sur le pantalon. Adulte, il a rencontré tous les grands de ce monde, chef d'État ou chef d'entreprise, vedette française ou internationale. Il est sans doute impossible de dresser la liste exhaustive des personnalités qu'a croisé Daniel Filipacchi dans sa très riche existence. Lui qui a fait mieux que de traverser le XXe siècle. Disons plutôt qu'il a contribué à le façonner.
C'était Destin extraordinaire, Daniel Filipacchi, l'histoire de celui qui a tout inventé, raconté par Julien Pisney, podcast Europe 1 en deux parties que vous pourrez retrouver évidemment dans son intégralité sur europe1.fr, l'application Europe 1 et sur toutes vos plateformes d'écoute. La nuit prochaine, on vous proposera le destin extraordinaire de Dalida. Rendez-vous donc à 1h, juste après la libre antenne sur Europe 1. Allez, dans un instant, on va parler des liens entre psychiatrie et justice avec notre psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont et Romain Desarbres. La dangerosité psychiatrique et criminelle était au cœur de leur émission Et si on en parlait, émission que vous retrouvez tous les après-midi de 15h à 16h. Et donc la séance de rattrapage, ce sera dans un instant, juste après une nouveauté musicale, Bruno Mars, qui est de retour avec un nouvel album qu'il a coproduit avec un producteur de renom, D-Mile. Et cet album paraîtra le 27 février. The Romantic, c'est son 4e album solo et en voici donc un extrait, I Just Might.
You better show me now, show me now.
Mars, de retour avec une nouvelle pépite, Adjust Might, et dont le clip vintage rétro est vraiment une réussite. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il a officialisé également son retour sur scène avec deux dates de concert à Paris, les 20 et 21 juin, au Stade de France. Cela étant dit, retrouvons notre psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont et Romain Desarbres. Voici et si on en parlait, en nouvelle diffusion, émission que vous retrouvez chaque après-midi sur Europe 1 de 15h à 16h, mais aussi en replay et en podcast sur le site et l'application Europe 1.
Face à la violence récurrente, on aimerait avoir la consolation de la psychiatrie. Et je crois que dans un monde qui n'a de cesse de nier la différence entre le bien et le mal, mais aussi entre la vérité et le mensonge, la barbarie nous laisse d'autant plus démunis. Alors, coûte que coûte, on appelle le psy, le sociologue ou le biologiste. Expliquez-nous une enfance difficile, un dérèglement neurologique, la pauvreté, enfin, dites-nous quelque chose. Et pourtant, je crois que c'est important de rappeler que le mal et la maladie mentale sont deux catégories qui ne se recouvrent pas. Parfois, elles se rencontrent. Le mal existe, il a mille visages, du pervers qui humilie, à l'adolescent qui tue pour un regard, du terroriste impulsif au psychopathe en cravate qui sourit avec sarcasme devant la souffrance de ses proches. La maladie mentale, elle, est très souvent silencieuse. Elle tue lentement et d'abord celui qui l'a subi. Vouloir déresponsabiliser le criminel en cherchant parfois une pathologie qui n'est pas là, c'est insulter les millions de malades qui ne passeront jamais à l'acte. Et oui, je vous le dis, chers auditeurs d'Europe 1, vous risquez plus de mourir foudroyé que tué par un schizophrène. La folie fait peur, soit. De là à lui prêter le monopole de la violence, il s'agit tout de même d'un sacré mécanisme de protection de notre part. Et puis, il y a ces zones limitrophes. Ces malades qui passent à l'acte sans délirer. Ces criminels sans antécédents qui semblent entrer dans une psychose pendant une bouffée délirante qui leur fait commettre l'irréparable. Ce mystère complexe de la nature humaine est largement insondé. Et la psychiatrie est, je crois, une école d'humilité. Elle n'épuisera jamais le mal. Sa mission est de comprendre et soigner la maladie mentale et rien d'autre. Alors, pour remettre un peu de clarté dans cette notion de dangerosité si souvent floue et dont le diagnostic, on le voit bien, est très incertain, je reçois Laurent Layet, psychiatre et auteur du très beau livre « Au pays des ombres » aux éditions Mareuil. Bonjour Laurent Layet et merci d'être avec nous et avec les auditeurs d'Europe 1 aujourd'hui.
Merci de m'accueillir.
Bonjour docteur. Marie-Estelle, on va parler donc pendant une heure des malades dangereux, de psychiatrie, de déséquilibrés. C'est vrai que ce sont des notions, quand on n'est pas, j'allais dire, dans le métier, quand on n'est pas médecin, des notions floues. On a souvent en tête, d'ailleurs, l'idée que les malades mentaux sont plus dangereux que les autres. C'est pas vrai ?
Oui, et c'est vraiment quelque chose, je crois que c'est important, aussi bien du point de vue de la justice que de la maladie mentale, de sortir de cette idée reçue un peu romantique, que le malade mental serait un fou dangereux systématiquement. Mais encore une fois, les schizophrènes ne sont pas de grands criminels, par exemple. Et donc, le crime n'a pas forcément l'excuse de la psychose. A contrario, un jeune complètement dissocié peut planter un couteau sans aucun remords, mais il n'est pas dans un monde, il n'est pas délirant et il n'est pas atteint de pathologie mentale. Alors, il est dissocié, c'est-à-dire qu'il n'a aucune empathie, il est coupé de tout affect. Donc, je pense que c'est très important aussi bien pour poser un regard beaucoup moins clivant sur la maladie mentale et rappeler quand même qu'on est tous susceptibles, un jour ou l'autre, de décompenser et de souffrir d'une pathologie mentale. Et d'autre part aussi, pour cesser d'aller chercher des excuses et une irresponsabilité là où ce sont d'autres paramètres qui ont précipité dans la violence, notamment des paramètres éducatifs.
Vous vouliez
J'aurais voulu poser une première question au docteur Layet. D'abord, je vous remercie parce que votre livre est très émouvant, il est saisissant, il est en même temps chirurgical. C'est vraiment une quête à chaque ligne pour être au plus près de la vérité psychique des patients. Il m'a beaucoup touchée, il m'a rappelé mes premières années où j'étais dans une unité fermée avec des malades difficiles. Et c'est vrai qu'on est habité, quand on est psychologue ou psychiatre, par cette tension permanente dans la recherche de la juste posture avec ces patients. Et qui nous emmène, en fait, là, on a à la fois très envie d'aller et très peur en même temps. Je crois que pour les auditeurs d'Europe 1, ce serait important que vous nous redonniez un petit peu la définition et surtout la manière dont on évalue la dangerosité d'un patient qui est en unité pour maladie difficile avec une injonction de soins.
Alors, encore aujourd'hui, on différencie deux types de dangerosité. La dangerosité psychiatrique, c'est-à-dire celle qui est sous-tendue par certains troubles mentaux, c'est une maladie mentale. Et donc cette dangerosité-là, elle est bien connue, même si, comme vous l'avez à juste titre souligné, elle est rare. C'est-à-dire que la plupart des malades mentaux ne sont pas dangereux. Or, si aujourd'hui vous tendez un micro dans la rue et puis que vous prononcez le mot de schizophrène, la première chose qu'on vous dira, c'est dangerosité. Alors que c'est pas vrai. 99% des schizophrènes sont des gens plutôt en perdition, qui doivent gérer des troubles chroniques, qui sont plutôt victimes de la société. Mais il faut pas méconnaître qu'il y a un petit pourcentage, 1%, pour lesquels la maladie va s'exprimer par l'agir et par le passage à l'acte. Et c'est cela que les psychiatres doivent prendre en charge, et c'est cette dangerosité-là qu'on peut anticiper. Mais à côté de cette dangerosité psychiatrique, il existe une dangerosité qu'on appelle criminologique, qui est un concept beaucoup plus large. Et c'est là où on a tendance à la confondre. C'est-à-dire que la dangerosité criminologique, elle inclut la dangerosité sociale, elle inclut donc énormément de facteurs qui ne sont pas des facteurs psychiatriques. Et c'est cette dangerosité-là que l'on voit tous les jours dans les médias.
Marie-Estelle, oui.
Et je pense que c'est important de rappeler que les unités, les UM, ce qu'on appelle les UMD, hein, les unités pour malades difficiles, il y en avait 4 en France jusqu'en 2002 où il y a eu cette affaire terrible d'un patient qui a assassiné 2 infirmières. Et suite à cela, on s'est dit, enfin Nicolas Sarkozy a demandé à ce que plus d'unités pour malades difficiles soient créées en France. Je crois que c'est important de rappeler que c'est d'abord des lieux de soins avant d'être des prisons.
Ah oui, complètement.
Ce ne sont pas des prisons, ce sont d'abord des lieux de soins.
Oui, c'est un
avec
hôpital,
cette difficulté. C'est dans l'hôpital. Hein. Moi, quand je travaillais, il y avait le service semi fermé, et puis l'unité véritablement fermée, qui nous fait rentrer avec beaucoup de sas, beaucoup de clés, beaucoup de précautions dans un univers où il y a effectivement beaucoup de précautions qui sont prises pour qu'aucun passage à l'acte ne soit possible et des tables qui sont vissées au sol. Je crois que ça, c'est important de rappeler que la particularité pour les psychiatres qui travaillent, c'est aussi qu'ils sont en lien en permanence avec l'administration, et vous dites dans votre livre que justement ce lien avec l'administration est ralenti parfois la prise en charge des patients.
Ah ben,
est-ce que vous pouvez nous éclairer
oui,
sur
alors,
ce point ?
Aujourd'hui, les hôpitaux, c'est des grosses machines, et les hôpitaux psychiatriques n'échappent pas à cette règle-là. Et avec l'image que renvoie la maladie mentale, y a besoin de lieux sécurisés, mais les UMD restent des îlots à l'intérieur desquels du soin est encore possible. Alors c'est vrai que ça a une image assez austère, parce qu'il y a des mesures de protection de l'intérieur des services vers l'extérieur des services, mais à l'intérieur de ces services, il y a la possibilité d'une humanisation et de prise en charge de pathologies qui sont lourdes. Parce qu'en fait, les UMD, c'est quoi ? C'est un équivalent de service de réanimation pour la médecine. Là, c'est une forme de réanimation pour la psychiatrie, c'est-à-dire qu'elle y concentre les pathologies les plus graves.
Vous êtes le directeur de l'UMD de Montfavet, près d'Avignon. Quels sont les profils des différents des malades que vous accueillez ?
Alors, il y a 3 types de profils, essentiellement. Le premier, ce sont des malades qui sont hospitalisés dans des services ordinaires, mais avec lesquels les services classiques de psychiatrie ne s'en sortent plus, soit parce que il y a des échecs dans la thérapeutique, comme dans toutes les maladies. Hein, je veux dire, la psychiatrie fait pas exception. Soit parce que le deuxième type, c'est des patients qui ont été irresponsabilisés, donc c'est-à-dire pour lesquels on a reconnu une abolition du discernement au moment de leur passage à l'acte, et donc ils sont orientés non pas vers la prison, mais vers les soins. Et il y a un troisième type de patient qui est accueilli, ce sont des gens qui sont détenus, mais qui présentent des troubles mentaux en détention, et dont les troubles mentaux les rendent incapables d'être maintenus en détention. Donc voilà les 3 types de malades qu'accueillent les UMD.
Et notamment d'ailleurs parce qu'en prison, ils sont l'objet de maltraitance ou d'humiliation, etc., du fait de leur maladie mentale. Quelle est la finalité de ces séjours donc en unité pour malades difficiles ? Comment est-ce que je pense pour les auditeurs d'Europe 1, c'est important de se représenter comment ils en sortent et quelle est la suite après ? Comment ils sont pris en charge après l'unité pour malades difficiles ?
Alors l'idée, c'est qu'ils aient des soins dans un lieu qui soit sécurisé. Ça, c'est un premier point, parce qu'il ne faut pas méconnaître qu'il y a des passages à l'acte qui sont possibles. Ensuite, c'est des séjours qui sont souvent plus longs que dans les services ordinaires, parce que la maladie mentale nécessite souvent le temps long pour être soigné. Et c'est des services qui nécessitent aussi d'avoir des moyens humains qui soient plus importants, parce que en psychiatrie, on soigne beaucoup avec l'humain. Mais sortir d'UMD, et je tiens à le préciser, la sortie des patients de l'UMD n'est pas décidée par les médecins de l'UMD. Elle est décidée par une commission indépendante. Donc c'est elle qui statue. Et une fois qu'un patient sort de l'UMD, il rentre dans l'unité où il était originellement. Donc s'il était en détention, il revend en détention. S'il était en psychiatrie, il revend en psychiatrie. Mais il y a très rarement, en fait, c'est plus qu'exceptionnel, voire jamais, de sortie sèche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de patients d'UMD qui vont directement à l'extérieur.
Bien sûr. Mais c'est important de le rappeler pour les auditeurs d'Europe 1, je pense, parce qu'il y a quand même une grande angoisse par rapport à ces malades. On a la représentation, en fait, qu'ils sont forcément très dangereux.
Marie-Estelle, la peur de la folie se traduit souvent par l'emploi incorrect de certains termes. Vous l'avez évoqué dans votre édito au début de l'émission. Est-ce qu'on peut y revenir ?
Oui, c'est intéressant de voir comme l'imaginaire collectif a une espèce de peur de la folie. On a peur de la folie et donc il arrive, quand on ne connaît pas la définition exacte, technique des mots, de très mal employer les mots. Et moi, parfois, ça me fait un peu bondir quand je lis des articles, évidemment, qu'un journaliste, il n'a pas un master de psychopathologie, mais il ne faut pas diffuser les mots comme paranoïa ou phobie ou c'est la psychose. Vous voyez un attentat, puis on vous écrit c'est la psychose. Mais non, c'est un attentat, ce n'est pas une psychose. Et en fait, le fait que le langage courant utilise des termes inappropriés, ça renforce aussi cette assimilation entre la folie et la violence. Et je pense que ça scotomise l'idée que le mal existe et qu'on est vraiment dans une anthropologie hyper matérialiste où on a nié la différence entre le bien et le mal. Et le mal n'a pas toujours l'excuse de la maladie. Et à contrario, je reviens sur ce que je disais dans l'édito, ça stigmatise énormément les malades mentaux. Et je pense que c'est important de rappeler que psychopathe, sociopathe, paranoïaque, c'est des termes très précis qui correspondent à des critères. Si un ensemble de critères n'est pas réuni, on ne peut pas poser cette étiquette, en fait. Et donc, ça a des conséquences quand on le fait. D'abord, ça aggrave ce regard sur la folie, puis ça fait oublier quelque chose, je crois. C'est qu'il y a quand même un continuum du normal au pathologique. Là, on parle de patients exceptionnels, mais pour chacun d'entre nous, il est possible qu'au cours de notre vie, nous ayons un trouble psychologique, nous décompensions à un moment donné, et que nous guérissions. Et donc, je pense que c'est important de ne pas regarder la maladie mentale un peu de manière très projective et justement parano. En gros, c'est toujours l'autre qui est fou, et de comprendre qu'on a cette possibilité de tomber malade physiquement, mais aussi psychiquement, et de s'en remettre. Et je pense que c'est très important de remettre ça au centre du débat, parce que j'ai vu en psychiatrie des guérisons inespérées chez des patients qu'on pensait complètement condamnés et puis qui s'en sont sortis dans une sublimation par l'activité artistique notamment, hein, qui ont mis toute leur bipolarité dans la peinture. Et puis à contrario, on voit des gens qui ont l'air complètement normaux et qui un jour décompensent de manière extrêmement violente.
Docteur Layet.
Alors, je vous rejoins tout à fait sur deux points, hein, et que je résumerai ainsi. La plupart des crimes fous ne sont pas commis par des fous. Ça, c'est un premier point. Et je vous rejoins aussi sur la deuxième chose, c'est-à-dire que beaucoup de termes psychiatriques sont tombés dans le langage courant. Et en tombant dans le langage courant, ils ont perdu leur sens. Et effectivement, ils font peur. Donc, schizophrène, paranoïaque, pervers, etc. Or, ça renvoie à des pathologies psychiatriques qui sont bien déterminées et qui, des fois, sont très éloignées de ce que pensent les gens. Quand on dit psychopathe, dans la rue, ça renvoie peut-être à une certaine image, alors que pour un psychiatre, un psychopathe ou un maniaque, par exemple, voilà le terme de maniaque. Alors, la manie, en psychiatrie, c'est plutôt une agitation, ou alors, dans le langage courant, c'est plutôt quelqu'un qui est très ordonné.
C'est obsessionnel
voilà,
du ménage.
Alors que c'est pas du tout...
Oui. Vous dites que la plupart des crimes fous ne sont pas commis par des fous. Mais alors, prenons un exemple précis. Bien malheureusement, on lit souvent dans les journaux un homme qui a tué son ex-compagne et les enfants. Voilà. Ça, c'est quoi pour vous? C'est un acte de folie, mais qui n'est pas commis par un malade.
Pas sous-tendu par une maladie mentale. Donc effectivement, on peut commettre un acte fou sans forcément avoir une maladie mentale. Mmh. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, l'irresponsabilité pénale pour raison psychiatrique, c'est-à-dire les gens qui sont dirigés après un acte grave vers l'hôpital plutôt que vers la prison, c'est 0,4%. Donc c'est anecdotique, ça concerne quelques centaines à peine de personnes par an.
Comment se passe justement un entretien? Alors le terme est peut-être pas le meilleur, une consultation d'évaluation, voilà l'expertise.
Ah l'expertise, alors l'expertise c'est un acte qui est extrêmement codifié, parce qu'elle est codifiée par la justice. D'abord c'est un magistrat qui vous désigne, et lorsque le magistrat vous a désigné, vous devez répondre aux questions qui sont posées par le magistrat. Alors certes, il y a deux questions principales qui intéressent la justice. C'est la question du discernement. Est-ce qu'il avait toutes ses facultés mentales au moment de son passage à l'acte? Parce que c'est ça qui va déterminer ou non l'irresponsabilité. Et ensuite, la question de la dangerosité. Et la troisième question maintenant qui intéresse la justice, c'est si on met des soins, est-ce qu'on diminue leur dangerosité? Voilà un petit peu. Donc, c'est pas des entretiens. Alors, si ça prend l'aspect d'une communication verbale avec quelqu'un, mais il y a le dossier d'instruction, il y a le dossier médical, et puis il y a aussi un certain nombre de symptômes. En fait, c'est une analyse sémiologique, une recueil de signes cliniques. C'est ça, en fait, une expertise psychiatrique. C'est pas une conversation amicale avec un individu.
Et on combine en général d'ailleurs l'expertise du psychiatre et l'expertise du psychologue parce que ils ont des formations complémentaires et que les psychologues qui sont experts auprès des tribunaux peuvent faire passer ce qu'on appelle des tests de personnalité profonde qui vont permettre d'évaluer, de donner des compléments d'information au psychiatre sur le risque de récidive, sur le risque suicidaire, etc., etc. Et je pense que c'est très important de rappeler aux auditeurs d'Europe 1 que dans une expertise psychiatrique justement, les compétences du psychologue et les compétences du psychiatre se combinent pour aboutir au profil le plus complet possible. Le problème étant évidemment aujourd'hui que très souvent on a un manque de moyens et de temps dans la justice puisque l'argent est plutôt alloué vers des choses très administratives et que donc parfois les expertises n'ont pas suffisamment de temps pour être approfondies.
Oui.
Alors dans votre livre, vous revenez assez longuement sur l'histoire de Denis Zinot. Parce que c'est un cas très intéressant, c'est-à-dire que nous, on a plutôt tendance à constater aujourd'hui dans les journaux que, notamment dans l'affaire Sarah Halimi, que parfois on utilise la pathologie pour plaider l'irresponsabilité et diminuer sa peine, et Denis Zinot est l'illustration inverse, c'est-à-dire que c'est un homme dont vous allez raconter mieux que moi l'histoire, avec qui vous avez beaucoup échangé, beaucoup travaillé, et qui justement ne veut pas qu'on présente son crime comme un symptôme, et pour qui c'est très important de dire « mais mon geste n'était pas fait sous le coup de la folie et je sais pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait ». Est-ce que vous pouvez raconter aux auditeurs d'Europe 1 cette trajectoire qui est tellement illustratrice des liens entre la psychiatrie et la justice, je trouve ?
Alors, pour résumer en quelques mots, on est au début des années 2000, dans un petit bar du sud de la France, dans une toute petite ville, et puis, comme on le dit, il y a quatre personnes qui tapent le carton, les habitués. Et puis, il y a un jeune garçon qui a 17 ans, qui est derrière le bar, et à qui on demande à servir une boisson aux habitués. Et puis, il tarde un peu parce qu'il est en train d'essuyer 2-3 verres. Son père est en train de faire la sieste au premier étage. Et puis, un des habitués du sud de la France, un peu grande gueule, lui lance « Petit, si tu ne me sers pas, je te mets 2 gifles ». Voilà, c'est un truc d'autant plus complètement banal. Sauf que ce jeune garçon, il entre dans une maladie, il rentre dans des troubles psychiatriques, et il a le sentiment que cette phrase, uniquement cette phrase, a été la cause pour lui de tous les désagréments de sa vie jusqu'à l'âge de 34 ans. Donc ça veut dire que pendant 17 ans, tous les jours, il va ruminer cette phrase comme étant la cause de tous ses maux. Et 17 ans, jour pour jour après, il va se présenter au domicile de ce monsieur. Et alors pas au domicile, il va se présenter alors que ce monsieur est en train de faire des courses et il va lui tirer 2 balles dans la tête. Voilà. Et pour lui, ce qui est important, pour M. Zinot, parce que les psychiatres vont se succéder, parce que les psychiatres vont diagnostiquer tous chez lui une maladie mentale, parce que les psychiatres vont dire qu'il doit être soigné, pour lui, le rendre fou,